La chasse-galerie. Dans la cabane de bûcheron, Arsène prenait un petit coup avec ses camarades en cette veille du jour de l'an. Après avoir lampé une douzaine de gobelets de rhum, il se laissa tomber sur sa robe de carriole et sombra dans le sommeil. Soudain, il se sentit secoué rudement par Durand qui lui dit « Arsène, les gars sont partis visiter leur famille et moi je m'en vais à la Valtrie voir ma blonde. Tu viens? » « À la Valtrie? Es-tu fou? C'est à plus de 500 kilomètres. On n'a pas 2 mois pour faire le voyage, » lui répondit Arsène. « Animal, nous ferons le voyage en canot d'écorce et demain matin à 6 heures, nous serons de retour au chantier. » Durand lui proposait de courir la chasse-galerie et de risquer le salut éternel pour le plaisir d'aller embrasser sa blonde au village et de prendre un coup. C'est vrai qu'Arsène était un peu ivrogne et pas vraiment porté sur la religion, mais vendre son âme au diable, ça, jamais. Poule mouillée, tu sais bien qu'il n'y a pas de danger. Avec la chasse-galerie, on voyage à 200 à l'heure. Il faut juste ne pas prononcer le nom de Dieu pendant le trajet et ne pas s'accrocher aux croix des clochers. Pense à la petite Lisa Guimbette et au plaisir de l'embrasser. Nous sommes déjà 7 pour faire le voyage et tu seras le 8e, continua Durand. Mais il faut faire un serment au diable et c'est un animal qui n'entend pas à rire lorsqu'on s'engage avec lui, protesta Arsène. Une simple formalité, mon Arsène. Il s'agit de faire attention à sa langue et à son aviron. Arsène, loin d'être convaincu, accepta tout de même l'invitation. Arsène et Durand rejoignirent les 6 hommes qui les attendaient, l'aviron à la main. Le grand canot était sur la neige dans une clairière. Sans plus réfléchir, Arsène était assis à l'avant, l'aviron pendant sur le plat-bord, en attendant le signal du départ. Debout à l'arrière, Durand dit d'une voix vibrante « Satan, roi des enfers, nous te promettons de te livrer nos âmes si, d'ici à 6 heures, nous prononçons le nom de ton maître et du nôtre, le bon Dieu, et si nous touchons une croix dans le voyage. À cette condition, tu nous transporteras à travers les airs au lieu où nous voulons aller et tu nous ramèneras demain au chantier. Acabri, Acabra, Acabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Le canot s'éleva dans les airs à une hauteur de 100 mètres. Arsène se sentait léger comme une plume. Au premier coup d'aviron, le canot s'élança et, c'est le cas de le dire, le diable les emportait. Durand, le possédé, gouvernait, car il connaissait la route. Il filait plus vite que le vent. Ils naviguèrent au-dessus de la forêt sans voir autre chose que les bouquets des grands pins noirs. La nuit était superbe et la pleine lune illuminait le firmament. Le froid cinglant leur givrait les moustaches. Ils aperçurent bientôt Gatineau, dans la surface glacée et polie, étincelait comme un immense miroir. Puis ils virent des lumières dans les maisons d'habitants, des clochers qui reluisaient comme des baïonnettes. Ils les dépassaient aussi vite qu'on passe les poteaux de télégraphe en train. Ils filaient comme des diables, survolant les villages, les forêts, les rivières. Bientôt, ils arrivèrent à la rivière des Outaouais, qu'ils suivirent jusqu'au lac des Deux Montagnes. Déjà, les 1000 lumières de la grande ville scintillaient. Ils filaient si vite qu'en un clin d'œil, ils dépassèrent Montréal et ses faubourgs. Après avoir passé les clochers de la Longue-Pointe, de la Pointe-aux-Trembles, de Repentigny et de Saint-Sulpice, ils aperçurent les 2 flèches argentées de la Valtrie qui dominaient le vert sommet des grands pins du domaine. « Attention! Nous allons atterrir à l'entrée du bois, dans les champs, et nous irons à pied pour surprendre nos connaissances !» cria Durand. Peu après, le canot se reposait dans un banc de neige. La maison de Bâtissette-Auger était toute illuminée. On entendait vaguement, au dehors, les sons du violon et des éclats de rire des danseurs, dont on voyait les ombres se trémousser à travers les vitres givrées. Maintenant, pas de bêtises et attention à vos paroles. Dansant comme des perdus, mais pas un seul verre de bière ni de rhum. Et au premier signe, suivez-moi tous car il faudra repartir sans tirer l'attention, prévint Durand. Ils frappèrent à la porte. Le père Batissette vint ouvrir et reçut le groupe à bras ouverts. Les invités, tous des connaissances, les assaillirent de questions. « D'où venez-vous? Je vous croyais dans les chantiers. Vous arrivez bien tard. Venez vous épancher le gosier. » Tout le monde parlait en même temps. Durand les interrompit brusquement. « D'abord, laissez-nous nous décapoter et ensuite, laissez-nous danser. Nous sommes venus exprès pour ça. Demain matin, je répondrai à toutes vos questions et je vous raconterai tout ce que vous voudrez. » Arsène avait déjà reluqué Lisa Guimbette. Il s'approcha d'elle pour l'inviter à danser. Son sourire lui fit oublier qu'il avait risqué le salut de son âme pour le plaisir de se trémousser en sa compagnie. Pendant 2 heures, une danse n'attendait pas l'autre. Tous s'amusaient comme des lurons. 4 heures sonnèrent à la pendule. Il était temps de partir. Durand avait pris un coup de trop et Arsène l'aida à sortir en faisant signe aux autres de les suivre sans attirer l'attention des danseurs. 5 minutes plus tard, ils s'étaient éclipsés du bal comme des sauvages, sans dire au revoir à personne, pas même à Lisa, et ils étaient remontés en canot. Que faire? Durand avait trop bu. Qui les ramènerait au camp avant 6 heures du matin, avant le réveil des hommes en congé le jour de l'an? Arsène prit position. Avant de s'élever dans les airs, il dit à Durand, « Pique tout droit sur la montagne de Montréal, dès que tu pourras l'apercevoir. » « Je connais mon affaire et mêle-toi des tiennes, » rétorqua Durand qui clama « Acabri, Acabra, Acabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. » Ils repartirent à toute vitesse, mais le pilote n'avait plus la main aussi sûre. Le canot décrivait des zigzags inquiétants. Ils rasèrent de près le clocher contre-cœur et au lieu de se diriger à l'ouest, vers Montréal, Durand mit le cap sur la rivière Richelieu. « À droite, Durand, à droite! « Maudit, tu vas nous envoyer chez le diable si tu ne gouvernes pas mieux que ça. » La peur commençait à tortiller l'équipage, car si Durand persistait, ils seraient tous flambés. Après avoir passé Montréal, Durand fit tellement tanguer le canot qu'il s'enfonça dans un banc de neige au flanc de la montagne. Heureusement, la neige molle limita les dégâts. Durand commença à jurer comme un charretier et déclara qu'avant de partir pour la Gatineau, il voulait descendre en ville prendre un verre. Impossible de lui faire entendre raison. Alors, à bout de patience et plutôt que de laisser leur âme au diable qui se pourléchait déjà les babines, ils jetèrent Durand dans le fond du canot et le ligotèrent tant bien que mal. Puis lui mirent un baillon pour l'empêcher de vociférer des paroles dangereuses. « Acabri! Acabra! Acabram! » Il ne restait qu'une heure pour atteindre le chantier de la Gatineau. Cette fois, Arsène pilotait. Ils rejoignirent la rivière des Outaouais jusqu'à la pointe à Gatineau et de là, ils piquèrent au nord vers le chantier. Peu avant d'arriver, Durand se détortilla de ses liens, arracha son baillon et se leva dans le canot en lâchant un juron qui les fit tous frémir. Il était impossible de lutter contre lui dans le canot sans courir le risque de tomber. L'animal gesticulait comme un perdu en les menaçant de son aviron. Pour l'éviter, Arsène fit une fausse manœuvre. Le canot heurta la cime d'un gros pin et tous furent précipités en bas, dégringola de branche en branche. Arsène perdit conscience. 2 heures plus tard, il s'éveilla dans son lit dans la cabane où l'avaient transporté des bûcherons qui les avaient trouvés, lui et ses compagnons. Inanimé et enfoncé jusqu'au cou dans un banc de neige du voisinage. Le diable ne les avait pas emportés. Arsène ne démentit jamais ceux qui disaient les avoir trouvés sous dans des grives, en train de cuver leur rhum dans un banc de neige, un aviron à la main. Histoire tirée du Québec, conte en contes et légendes, des auteurs Michel Savage et Germaine Adolphe, des éditions Modus Vivendi.